Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les partis au conflit armé entre la RDC et le M23 appelés à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. Dans un communiqué officiel publié hier, le gouvernement américain qui appelle les uns et les autres à cette trêve précise qu'il salue cette cessation des hostilités dans laquelle se sont déjà engagés les partis impliqués. L'épidémie de choléra est déclarée depuis hier au Kassai oriental par le gouverneur de province. 30 cas de choléra, dont 4 décès, sont déjà enregistrés depuis la 10e semaine épidémiologique à ce jour. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais et l'invité de ce journal, Patrick Muyaya, confirme la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis dans la crise de l'Est de la RDC. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Au Nord Kivu, les partis au conflit armé opposant la RDC à la rébellion du M23 sont appelés à observer dès ce vendredi à minuit une trêve humanitaire de 2 semaines. L'annonce émane du gouvernement américain. Dans un communiqué officiel rendu public hier jeudi, la Maison-Blanche dit saluer cette trêve dans laquelle se sont déjà engagés les partis impliqués. Bernard Nyangi.
La situation humanitaire en Nord Kivu est désastreuse, avec près de 3 millions de personnes déplacées internes, indique la Maison-Blanche dans ce communiqué. Selon les États-Unis, la récente expansion des combats dans le grand nord de la province a empêché les traverses humanitaires d'atteindre des centaines de milliers de personnes déplacées autour de Kanyabayonga, alors que les mêmes combats ont forcé plus de 100 000 autres personnes à fuir le milieu. L'administration Biden, qui appelle toutes les parties à respecter l'esprit de la trêve avant qu'elle n'entre en vigueur dès minuit ce vendredi 5 juillet 2024, assure que les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire de 2 semaines. Une trêve qui vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Rappelons qu'à la suite de l'intensification des combats autour de Kanyabayonga, certains humanitaires, tel le cas du CICR, ont suspendu fin mai 2024 leur distribution d'aide alimentaire en faveur des personnes déplacées installées dans la zone à cheval entre le sud du territoire de Lubero et le nord du territoire de Rutshuru. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et le gouvernement congolais confirme effectivement la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis d'Amérique dans la crise de l'Est de la RDC. Cet arrêt des hostilités qui intervient ce vendredi 5 juillet à minuit doit permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave. Dans une interview accordée à Radio Kapi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement indique que la RDC compte sur la vigilance des FRDC et le mécanisme mis en place par le gouvernement américain pour faire le monitoring sur l'effectivité de l'observance de ces mesures par la partie rwandaise. Patrick Muyaya Katembwe répond ainsi au micro de Blaise Shindani Kambala.
Oui, je confirme la trêve obtenue par la Maison-Blanche dans le cadre justement de l'urgence humanitaire dans l'Est de la RDC. Comme vous le savez, il existe une initiative portée par Avril Haines, qui est la chef des services d'intelligence américains, qui a été dans la région pour voir les deux chefs d'État. C'est donc dans le cadre de ces mécanismes qui visent notamment la désescalade entre les deux pays qu'une trêve a été obtenue pour permettre justement d'apporter l'assistance et l'appui humanitaire aux populations qui sont décimées par tous ces conflits et par les attaques répétées de l'armée rwandaise.
Quelle garantie pourra avoir la RDC pour savoir que cette trêve est respectée même de l'autre côté?
Et donc pour les cas en question, nous comptons sur la vigilance de notre RDC, mais nous comptons aussi sur le mécanisme mis en place par le gouvernement américain pour s'assurer que le monitoring est assuré sur place et pour que la trêve produise ses effets dès ce jour le 5 juillet.
Sur le plan humanitaire, la RDC totalise à ce jour près de 7 300 000 déplacés internes. Mais la réponse humanitaire est insuffisante malgré les efforts consentis par les partenaires. C'est le coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC qui l'a dit hier à l'issue de sa rencontre avec la première ministre Judith Suminwa. Bruno Le Marquis dit espérer que les solutions politiques vont aboutir pour permettre à tous ces déplacés de retourner chez eux. On écoute Bruno Le Marquis dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
La RDC a maintenant à peu près 7,3 millions de déplacés, ce qui est gigantesque. En pourcentage, ça parle mieux. 40% de la population de l'Itourie, imaginons ce que c'est, 40% de la population de l'Itourie est déplacée. Plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée. Plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour arriver à ce que les gens retournent chez eux, les conditions soient réunies pour que les gens retournent chez eux. Nous, j'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à à peu près un quart, ce qui veut dire que la réponse humanitaire pour les personnes déplacées, les personnes qui vivent dans des états de grande précarité, est vraiment insuffisante. On remercie tous les efforts qui sont faits, des efforts considérables qui sont faits par nos partenaires, mais c'est simplement pas suffisant. Il suffit d'aller à l'est de la République démocratique du Congo, il suffit d'aller dans les sites de déplacés pour voir que la réponse n'est pas adéquate.
Sur le terrain, comme pour confirmer les propos de Bruno Le Marquis, en Nord Kivu, des milliers de familles déplacées vivent toujours dans une grande précarité. Par exemple, l'image des familles déplacées entassées dans les salles de classe était considérée au départ comme une situation passagère. Cependant, plus de 2 ans après, nombreuses sont les familles qui attendent d'être relocalisées vers les sites aménagés. Pour ces déplacés, il serait mieux plutôt d'être relocalisés vers leur village afin d'atténuer la souffrance sans nom qu'ils traversent. Depuis tout ce temps, Rosalie Zawadi nous présente la situation au sein d'une école dans le nord de Goma. Suivez.
Ils sont plus de 300 ménages déplacés, un peu plus de 1600 personnes à se partager les 12 salles de classe de l'école primaire KMB. Ces déplacés vivent dans une promiscuité insoutenable, loin de tout semblant des vies normales. Bernard Hategeka, gestionnaire des sites sur l'axe Kanyaruchinya pour l'organisation EIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social, déplore les conditions de vie de ces ménages.
La salle que nous avons visitée regorge 46 ménages et les ménages font face à une promiscuité dans la salle. Vous voyez, c'est un peu compliqué, donc les besoins sont énormes. Malgré que OIM fait des transferts de ménages, il y a toujours à faire pour peut-être désengorger toutes les salles afin que les ménages quand même vivent dans des conditions un peu améliorées dans les abris d'urgence.
Étant donné que les financements de plusieurs acteurs humanitaires n'étaient pas prévus pour une si longue période, nombreux se sont désengagés. Ces déplacés demandent le retour rapide de la paix afin de pouvoir regagner leur milieu d'origine. Pour eux, si même les besoins des bases comme les abris ne sont pas satisfaits, la seule solution reste le retour. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps en Ituri, les représentants des communautés Yira et Emma lancent un appel à leurs membres à ne pas céder à la manipulation en se livrant aux violences. Ils ont fait cette déclaration commune hier au cours d'un point de presse à Bunia à la suite d'une tension qui s'observe entre les deux ethnies. Ils dénoncent des messages véhiculés dans les réseaux sociaux pour entretenir la haine et la xénophobie avec comme conséquence la destruction de certaines maisons de commerce. Isaac Raymond.
Des images circulent dans les réseaux sociaux sur un membre de la communauté Hema qui serait tué par des inconnus à Lubero dans le Nord Kivu, ce qui a suscité une tension dans certaines localités, notamment dans les territoires des Djougouani-Touri, où certains ressortissants de cette province font l'objet des menaces. À Bunia, un groupe de personnes a saccagé la nuit dernière une boutique près des sites de l'ISP. Les représentants des deux communautés Nituri dénoncent la manipulation de certains de leurs membres pour exacerber les violences. Selon le président des Yira, il n'y a aucun problème entre les deux communautés qui sont toujours soudés, Mouindo Moufalme.
Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est sur base de cela que nous sommes mis d'accord pour mettre nos membres au calme, qu'il n'y a pas de problème entre la communauté Yira et la communauté Hema.
De son côté, le président intérimaire de Hema demande à la population de promouvoir la cohésion sociale pour ne pas aggraver la situation sécuritaire déjà précaire en Ituri. Michel Angaïka.
Le moment est grave et par conséquent, ça ne vaut pas la peine d'aggraver ce qui est déjà grave. Sous bloc, déjà c'est calme. Nous n'avons pas intérêt à créer encore de nouvelles morts. Nous demandons en tout cas que les gens se calment au lieu d'appliquer la loi des talions.
Les enquêtes se poursuivent pour tirer au clair cette affaire, indiquent les deux parties. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le corps sans vie d'un homme a été découvert ce matin dans un caniveau sur l'avenue Père Boka, non loin de l'Institut supérieur pédagogique ISP dans la commune de la Gombe. La police scientifique était sur place place pour le constat. Elle a finalement emmené le corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Il s'agit d'un deuxième cas en l'espace de 24 heures. Hier mercredi, un autre corps d'un homme identifié comme chauffeur de taxi Yango a également été retrouvé toujours dans la Gombe, cette fois-là derrière l'immeuble de l'ONATRA. L'association des chauffeurs du Congo précise qu'il habitait la commune de Lemba. Dans les deux cas, les corps avaient les pieds et les mains ligotés, ce que confirme la police de la Gombe descendue sur place. Elle affirme avoir constaté le même mode opératoire pour les deux corps. Le corps retrouvé aujourd'hui portait en outre des blessures et d'autres traces de violence sur la tête. La police poursuit des investigations, notamment pour identifier la victime et élucider les circonstances de ces deux meurtres. Au Kassai oriental, le gouverneur de province a déclaré hier jeudi l'épidémie de choléra sur toute l'étendue de la province. D'après Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, 30 cas de choléra, dont 4 décès, ont été déjà enregistrés depuis la 10e semaine épidémiologique à ce jour. Les déclarations de Jean-Paul Mbwebwe-Kapo, gouverneur de province, ont été diffusées hier soir sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC.
Chers compatriotes, le choléra est une maladie diarrhéique à début brutal, caractérisée par l'émission de ces liquides, profuse et parfois des vomissements évoluant rapidement vers le danger de mort. Notre province a déjà connu des épidémies de choléra en 2002, 2018, 2022, ayant entraîné plusieurs malades et beaucoup de décès. Cette année, dès la 10e semaine à ce jour, notre province, à travers 11 de ses 19 zones de santé, a enregistré 30 cas de choléra, dont 10 échantillons prélevés et acheminés à l'INRB Kinshasa, parmi lesquels 4 sont revenus positifs à l'agent causal de choléra, ce qui confirme la présence de cette maladie dans la province du Kassai oriental. Ainsi, au vu de ces résultats, je déclare la province du Kassai oriental en épidémie de choléra. J'appelle notre population au respect sans relâche des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains au savon et ou à la cendre, la couverture des aliments et la rassure que nos équipes techniques, accompagnées de nos partenaires en santé, sont déjà à pied d'œuvre pour maîtriser cette épidémie.
Retour au Nord Kivu, cette fois dans le territoire de Beni. Les activités reprennent timidement à Masala, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni. Il y a 2 mois, la localité de Masala, cette entité, avait été attaquée par des rebelles de ZADF. Ils avaient tué 10 de civils et incendié plusieurs habitations. Marc Marofimbo pour les détails.
La population qui s'était déplacée dans la localité voisine des cantines commence à regagner Masala, ce qui permet la reprise timide depuis 2 semaines des activités dans cette localité qui avait été attaquée il y a 2 mois par les rebelles des ZADF. Les activités champêtres, occupation principale de la population locale, ont également repris dans la zone. Sukusuku Mukubwa, chef de la localité de Masala, appelle la population de son entité encore déplacée à regagner le milieu.
Masala est un peu calme. Aujourd'hui, par exemple, nous étions dans une rencontre de plus de 100 personnes. Toutes les figures étaient de Masala. L'objectif était de sensibiliser la population, de faire appel aux autres de revenir afin que nous continuions avec nos activités normalement, que nos enfants ne souffrent plus. Masala reprend sa vie normale. Tous nos cadres de base sont déjà là. Pour cela, dont les maisons ont été incendiées et le comité d'urgence a été mis en place pour accorder à ceux qui retournent de l'espace afin de s'installer.
Signalons que depuis 2 semaines également, les forces conjointes des armées congolaises et ougandaises organisent des patrouilles à Masala et ses environs pour rassurer la population qui regagne le milieu. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Les chercheurs et innovateurs congolais continueront à bénéficier de l'appui de l'accompagnement du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Cette assurance est du ministre Gilbert Kabanda. Il l'a fait savoir hier lors d'un échange avec la presse. En effet, après avoir présenté au Premier ministre Judith Suminwa le 24 juin dernier près de 65 prototypes des inventeurs congolais pour une éventuelle mise en œuvre, le ministre Gilbert Kabanda attend désormais œuvrer pour la matérialisation du génie congolais pour le développement du pays. Jacques Molima.
Dans son adresse, Gilbert Kabanda spécifie en premier le caractère indispensable des inventeurs.
Les scientifiques, les chercheurs, avec bien sûr la mise en œuvre de leurs prototypes en industrie, qui sentent qu'ils sont indispensables au développement de notre pays.
De ce fait, il préconise un accompagnement en conséquence.
Nous sommes en train de mettre en place, avec mon homologue de l'industrie, une structure interministérielle d'accompagnement de ces inventions dans leur prise en charge par les différents ministères.
Toutefois, pour réussir, il faut des moyens et le ministre a déjà une idée.
Nous allons créer un fonds souverain. C'est un fonds, on le met à la disposition des inventeurs avec une probabilité très élevée. L'invention a des chances de devenir un produit consommable.
L'idée a été suggérée au sommet de l'État et un forum national du génie scientifique congolais est en vue quant à ça dans les jours qui viennent.
Actualité internationale.
Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir demain 6 juillet le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Une rencontre juste avant le sommet de l'organisation régionale ouest-africaine, la CDAO, prévue le jour suivant à Abuja et dont ils ont claqué la porte en début d'année 2024. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, l'ancien colonisateur, et à la CDAO qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leur bataille contre les djihadistes. Malgré cette prise de distance, plusieurs chefs d'État de la région continuent d'appeler au dialogue entre les deux blocs.
L'invité.
Le gouvernement congolais affirme la trêve humanitaire de 2 semaines obtenue par les États-Unis dans la crise de l'Est du pays. Cet arrêt des hostilités qui intervient ce vendredi 5 juillet à minuit doit permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave. Dans une interview accordée à Radio Okapi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement indique qu'il s'agit d'un pas d'une série d'actions vers le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Patrick Muyaya est interrogé ici par Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Blaise.
Confirmez-vous la déclaration de la Maison Blanche annonçant la trêve humanitaire de 2 semaines dans la guerre dans l'est de la RDC.
Oui, je confirme la trêve obtenue par la Maison Blanche dans le cadre justement de l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC. Comme vous le savez, il existe une initiative portée par Avril Haines, qui est la chef des services d'intelligence américains, qui a été dans la région pour voir les deux chefs d'État. C'est donc dans le cadre de ces mécanismes qui visent notamment la désescalade entre les deux pays qu'une trêve a été obtenue pour permettre justement d'apporter l'assistance et l'appui humanitaire aux populations qui sont décimées par tous ces conflits et par les attaques répétées de l'armée rwandaise.
Pourquoi une trêve humanitaire et pourquoi pas une cessation totale des hostilités, messieurs les ministres?
Écoutez, il y a des discussions qui sont en cours. Vous savez que nous avons de préalables, notamment en termes du respect du processus de Luanda. Mais si vous regardez la situation humanitaire, avec récemment d'ailleurs des cas que nous condamnons de la mort de certains des personnels humanitaires, vous regardez les nombres de populations déplacées, il est urgent que ces populations puissent être secourues. Je pense que c'est un premier pan d'une série d'actions qui suivront, notamment des pressions sur le Rwanda, pour qu'il puisse retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et cesser d'endeuiller nos populations.
Quelle garantie pourra avoir la RDC pour savoir que cette trêve est respectée même de l'autre côté?
Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous resterons vigilants et si vous lisez les communiqués de la Maison Blanche, vous allez voir qu'il y a un système de monitoring au dernier paragraphe qui est signalé parce que le gouvernement américain eux-mêmes à travers ses différents services va s'assurer que cette trêve est respectée de tous. Et donc nous pensons justement que cette vigilance doit être de mise à la fois d'abord de notre côté, mais ensuite du côté du gouvernement américain, parce que nous connaissons les agissements du Rwanda, et ce n'est pas toujours rapidement qu'ils obtempèrent à ce qui a été convenu. Et donc pour les cas en question, nous comptons sur la vigilance de nos phares d'essai, mais nous comptons aussi sur le mécanisme mis en place par le gouvernement américain pour s'assurer que le monitoring est assuré sur place et pour que la trêve produise ses effets dès ces jours le 5 juillet.
Monsieur le ministre, selon la déclaration de la Maison Blanche, les USA continuent de soutenir le processus de Luanda pour remédier à la crise actuelle. Que pouvez-vous dire pour ce processus qui semble en tout cas bloqué?
Écoutez, le processus bloque parce qu'il y a un partenaire à la table qui veut le blocage, qui s'appelle le Rwanda, avec des subterfuges de tout genre pour continuer l'opération de pillage dans l'est de la République démocratique du Congo. De notre point de vue, nous considérons que la feuille de route de Rwanda, c'est la feuille de route qui répartit les tâches et donc c'est la voie qui doit nous conduire vers la paix. Pour autant que les pays comme les États-Unis multiplient alors de pression, pourquoi pas des sanctions contre le Rwanda, parce que comme vous le savez, il y a des rapports qui documentent la présence de ces troupes dans l'est de la RDC. Je pense que ça, c'est pourra être un élément déclencheur pour permettre la suite du processus. Mais aujourd'hui, la trêve humanitaire dont on parle, on l'a dit, pour des besoins humanitaires, cela dit, nous connaissons les réalités de terrain, nous connaissons le comportement de l'armée rwandaise. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un relâchement de notre côté. Nous allons continuer à rester vigilants pour s'assurer que d'autres initiatives ou d'autres aventures de l'ennemi ne prennent pas forme.
Oui, concernant maintenant la reconduction de l'embargo sur les armes en RDC, pour être clair, est-ce que la RDC peut-elle acheter librement les armes aujourd'hui?
Le gouvernement de la République démocratique du Congo peut librement acheter ses armes après la suspension, je pense en décembre 2022, de la mesure portant le régime des notifications. Mais par contre, le régime qui a été reconduit par le Conseil de sécurité vise plutôt les organisations non gouvernementales et autres entités, notamment le groupe armé, les différents réseaux mafieux qui les approvisionnent en armes et munitions. Et donc, la mesure des reconductions qui a été prise ne concerne pas le gouvernement de la République démocratique du Congo, et cela doit être bien clair.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Billy Landry Betou et présenté par Noëlla Luzito Kabambi dans une coordination de Jacques-Yves Molima et Alain Irung. Je vous laisse à présent en compagnie de Kanish Mukongo Shamboui pour le journal des sports.